VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 25 mai 2017. Une école de Mopti saccagée et incendiée par des djihadistes au Mali. 2300 migrants secourus au large de la Libye et deux autres retrouvés morts. Journée de l'Afrique, Alpha Condé, actuel président de l'Union africaine, appelle à lutter contre le chômage. Au moins 105 civils tués à Mossoul dans un bombardement américain en mars, selon le Pentagone. Donald Trump a exhorté ses partenaires de l'OTAN à Bruxelles à payer leur juste part. Exécution à Gaza de trois Palestiniens accusés de l'assassinat d'un commandant du Hamas. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Une école primaire de Mopti au Mali a été la cible d'attaques djihadistes. Hier soir, une dizaine d'hommes armés l'ont saccagée et incendiée. Notre correspondant Mamadou Bokoum.
L'école fondamentale de ça a été la cible d'attaque ce mercredi après-midi. Une dizaine d'assaillants armés de Kalachnikov ont mis du feu dans les salles de classe, à la direction et au magasin de la cantine scolaire. Ces groupes armés s'insurgent contre l'école occidentale. Après avoir commis leur forfait, les auteurs de cet acte ont demandé à la population de se convertir à l'islam avant de regagner la brousse. Selon des témoins, les forces de l'ordre ont été alertées, mais à présent, ils ne sont pas arrivés sur les lieux. Il y a une semaine, une autre école a été brûlée dans le village de Lambo, à 15 km de ça, toujours dans le cercle de Yuwaru. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
2300 migrants ont été secourus au large de la Libye ce jeudi et deux autres retrouvés morts alors que les survivants du drame d'hier faisaient route vers l'Italie, ont annoncé les gardes-côtes italiens. 5900 personnes ont été secourues depuis mardi et 37, dont des enfants, ont péri par noyade. Le président du Niger a invité au sommet du G7 en Italie. Mamadou Issoufou a quitté Niamey à destination de Taormina. Le point avec Morgane Guériec.
Une vingtaine de délégations sont attendues à Taormina. Aux sept pays les plus riches s'ajoutent les représentants de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, de la Tunisie, du Niger, du Nigeria, du Kenya et de l'Éthiopie. Le sommet sera axé notamment sur la sécurité des citoyens. Depuis 2014, Paris a déployé des drones à Niamey et dispose d'une base à Madama, à 200 km de la Libye. Washington a des bases à Agadez et à Niamey, d'où décollent des drones de surveillance pour soutenir l'opération française Barkhane contre les extrémistes islamistes au Mali et dans les pays voisins. En 2016, l'Allemagne avait annoncé la construction près de Niamey d'une base aérienne d'appui à la mission onusienne au Mali. Sur le terrain, les djihadistes ont annoncé la mise en place d'une nouvelle coalition et multiplient les attaques.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement au lendemain du remplacement inattendu de son premier ministre à la suite des élections législatives. Plusieurs poids lourds du gouvernement sortant n'ont pas été reconduits, comme le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, remplacé par l'ex-ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe Abdelkader Messaïl. En Côte d'Ivoire, le chef du protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, Souleymane Konaté Camarate, est convoqué vendredi à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan Plateau pour être entendu. La convocation portant la signature du capitaine Essay Ekra Frédéric lui a été remise ce jeudi, selon notre correspondant Ibrahim Tungara. Elle fait suite à la récente mutinerie au cours de laquelle une supposée cache d'armes a été découverte à son domicile à Bouaké. Nouvelle attaque au Kenya, 5 policiers ont été tués quand leur véhicule a heurté un engin explosif dans l'est du pays. C'est le 3e attentat en 2 jours revendiqué par Al-Shabaab. Jacques Aristide.
Les 5 policiers tués étaient en route pour renforcer l'opération à Liboy, ville frontalière avec la Somalie. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Hier, 8 autres policiers kényans ont péri dans des circonstances similaires, dans 2 incidents distincts. Les chebabs somaliens ont revendiqué ces attaques. Nairobi n'a pas encore réagi, mais la police a mis en garde contre une activité croissante des islamistes. D'après elle, le groupe envoie des agents dans le nord-est du pays pour poser des engins explosifs improvisés sur les routes utilisées par les patrouilles militaires. Depuis son intervention en Somalie pour lutter contre Al-Shabaab, qui est affilié à Al-Qaïda, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment au centre commercial Westgate à Nairobi et à l'université de Garissa.
En Libye, les forces commandées par le maréchal Khalifa Haftar ont pris le contrôle de la base de Tamanhunt sans aucune résistance des groupes rivaux. À l'arrivée des forces de l'ANL, les combattants de la 3e force, officieusement loyale au gouvernement d'Union nationale, avaient déjà quitté les lieux. Les forces pro-Haftar ont trouvé notamment des chars, des avions militaires et des drones avec caméras, a indiqué un porte-parole de l'ANL. Le manque de financement contraint les agences humanitaires à interrompre des programmes dans le nord-est du Nigeria, ont prévenu ce jeudi les Nations Unies. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, 5,2 millions de personnes auront besoin d'assistance alimentaire dans les États de Yobe, Borno et Adamawa jusqu'au mois d'août. Un ancien porte-parole d'un parti d'opposition éthiopien jugé coupable d'incitation au terrorisme a été condamné ce jeudi à 6 ans et demi de prison par un tribunal d'Addis Abeba. Yonatan Tesfaye du parti Semayawi avait été reconnu coupable la semaine dernière.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 105 civils ont été tués le 17 mars lors d'un bombardement américain à Mossoul en Irak, a reconnu ce jeudi le Pentagone. Le rapport d'enquête de l'armée américaine a rejeté en grande partie la faute sur le groupe État islamique qui, selon elle, avait placé une grande quantité d'explosifs dans un bâtiment visé par la frappe. La coalition ignorait qu'il y avait des civils ou des explosifs dans le bâtiment ciblé, conclut le rapport. La frappe a été déclenchée à la demande des autorités irakiennes lorsque deux snipers ont ouvert le feu sur les forces de sécurité. Le président Donald Trump a participé à son premier sommet de l'OTAN à Bruxelles. Retour sur les points forts de son discours devant les alliés avec Anastasie Tudiech.
Le président Trump a d'abord demandé une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Manchester. Il a ensuite appelé les pays de l'OTAN à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie. Le président américain a aussi rappelé à l'ordre les pays de l'OTAN qui ne payent pas leurs dûs.
Sur 28 pays membres, 23 ne payent pas ce qu'ils devraient. C'est injuste envers les contribuables américains. Nombreux doivent payer de grosses sommes et ne s'en acquittent pas.
L'OTAN s'est fixé pour objectif un budget défense équivalent à 2% du produit intérieur brut de chaque pays d'ici à 2024, ce que le président américain considère comme le strict minimum. Il a affirmé que ces 8 dernières années, les États-Unis ont dépensé plus pour leur défense que l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Donald Trump participe demain en Italie au sommet du G7.
L'ex-premier ministre grec Loukas Papademos et son chauffeur ont été sérieusement blessés dans l'explosion d'un engin en voiture à Athènes, ont annoncé les médias d'État. « Nous sommes choqués, je veux condamner cet acte haineux », a déclaré le ministre de la Communication Nikos Pappas. 3 Palestiniens accusés de l'assassinat en mars d'un commandant du Hamas pour le compte d'Israël ont été exécutés ce jeudi dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes, y compris des enfants, se sont pressées aux abords du complexe policier où se sont déroulées les exécutions. Des dizaines de journalistes avaient également reçu l'autorisation d'assister à ces exécutions. L'enquête sur l'attentat de Manchester progresse avec 8 hommes en garde à vue malgré une polémique sur des fuites qui auraient nui aux investigations. À Londres et Manchester, les Britanniques ont observé une minute de silence à la mémoire des 22 morts, dont plusieurs enfants et adolescents. L'attentat à la fin du concert d'Ariane Grande lundi soir a également fait 75 blessés selon un nouveau bilan. Son auteur tué dans l'explosion, Salman Abedi, dit 22 ans, était d'origine libyenne. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique qui a menacé d'en commettre d'autres. Et le président brésilien Michel Temer a abrogé un décret autorisant le déploiement de troupes à Brasilia après les manifestations violentes d'hier. La plupart des ministères étaient sous surveillance dès la première heure de la matinée jeudi, mais les militaires ont commencé à quitter les lieux quelques minutes après l'abrogation du décret. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
De la lutte contre le cancer, de l'électricité nucléaire en conformité avec les normes et conventions internationales. Et pour y arriver, le gouvernement a adopté hier un projet de loi portant sûreté, sécurité et utilisation pacifique de l'énergie atomique. Djibouti envoie de gérer 95% des importations de l'Éthiopie. Le port multifonction de Doralé, officiellement lancé, constitue une portée d'entrée vers l'une des régions à plus forte croissance du monde. Il va relier l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Financé en grande partie par la Chine pour un budget de 590 millions de dollars, ce port accueillera 30 000 navires chaque année. Djibouti abrite également des bases navales américaines, françaises et chinoises. L'économie ougandaise devrait atteindre 6 à 6,5% à l'horizon 2020 ou 2021. Le Fonds monétaire international mise sur l'exploitation des champs pétroliers, les vastes chantiers d'infrastructures, dont les centrales hydroélectriques, des autoroutes, un pipeline, un vaste réseau de chemins de fer et une raffinerie. En revanche, Kampala devrait connaître un ralentissement des exportations liées à l'instabilité chronique en RDC, Somalie, Burundi et surtout au Sud-Soudan.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Après des débuts en fanfare contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a chuté contre les États-Unis ce matin. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire après la demi-heure de jeu. Les États-Unis s'emparent de la tête du groupe F avec 4 points. Les Sénégalais auront l'occasion de se ressaisir contre l'Équateur dimanche, tandis que les États-Unis tâcheront de confirmer contre les Saoudiens. Demain, la Guinée doit impérativement l'emporter face à l'Argentine pour espérer conserver un maigre espoir de qualification.
Grand remue-ménage dans la sélection ghanéenne.
Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a convoqué 30 joueurs pour les rencontres du mois de juin. Pour sa première liste depuis son retour sur le banc des Black Stars, le technicien ghanéen a écarté pas moins de 10 joueurs retenus pour la CAN 2017, notamment Badou, Daouda, Djima, Yadom, Tété ou encore Tekpété. Il ne figure pas dans la liste des 30 joueurs retenus pour les rencontres du mois prochain, le 11 juin face à l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2019, puis en amical face au Mexique le 28 juin et aux États-Unis le 1er juillet.
Et Luis Suarez incertain avec l'Uruguay.
L'attaquant uruguayen blessé à l'entraînement ce jeudi avec son club du FC Barcelone devrait manquer les rendez-vous amicaux de l'Uruguay contre l'Irlande et l'Italie début juin. L'attaquant déjà privé de la finale de la Coupe du Roi samedi face à Alaves à cause d'une suspension, il sera éloigné des terrains pendant 15 jours.
Le Portugal en route pour la Coupe de la Confédération.
Le Portugal emmènera pratiquement tous ses champions d'Europe 2016 à la Coupe des Confédérations qui commence le 17 juin. Elle sera organisée en Russie. Le buteur lillois Eder, auteur d'un but victorieux face à la France en finale de l'Euro 2016, a été écarté, payant sa saison en demi-teinte du côté du LOSC. L'attaquant du FC Porto, André Silva, lui a été préféré.
On termine par la NBA, Cleveland aux portes de la finale.
Oui, les Cavaliers de Cleveland, double tenant du titre, ne sont désormais qu'à une victoire d'une troisième finale d'affilée en NBA. Ils mènent 3-1 dans leur série contre Boston et le cinquième match, c'est ce soir à Boston. On suivra ça évidemment demain matin.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
le monde.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Le Burundi s'achemine inexorablement vers la réécriture de sa constitution. 15 personnes ont été nommées par décret présidentiel pour revoir certains articles de l'actuelle constitution qui limite les mandats présidentiels à 2. La Commission nationale du dialogue inter-burundais a conclu dernièrement que la majorité des citoyens de l'intérieur interrogés ne veulent pas de limitation de mandat. L'opposition affirme que le parti au pouvoir veut la suppression des accords d'Arusha. Voici un reportage de Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Pascal Nguendakuriyo est à la tête d'une commission de 15 personnes qui viennent d'horizons politiques divers, de différentes religions et ethnies. Il a la lourde mission de pouvoir présenter au mois de septembre ou avant la fin de cette année au président burundais un rapport qui précise bien les articles à modifier dans la constitution actuelle, y compris l'article concernant les mandats présidentiels. Pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, cette idée de revisiter la constitution n'est pas nouvelle. Une commission technique a été mise sur pied dernièrement par le numéro 1 burundais, il est déjà à pied d'œuvre. Évariste Ndayishimiye.
Il y a des procédures pour amender la constitution. Il y a eu des idées qui sont venues de beaucoup de citoyens burundais qui demandent qu'il y ait amendement de la constitution. C'est là même où on a commencé à parler de questions de mandat. Il y a une commission technique qui va étudier techniquement comment mettre en œuvre ces recommandations. Même dans l'affaire de Route de Kayanza, les partis politiques avaient prévu la révision de la constitution parce qu'il y a toujours des lacunes. Ce sont les membres de la commission technique qui étudient la gestion des institutions qui étaient en place.
Pour le parti de l'indépendance, il prônait Union pour le progrès national. La révision de la constitution burundaise ne peut pas intervenir au moment où les parties prenantes sont aujourd'hui en pourparlers. Tassien Sibomana.
Un parlement futur légal et légitime ne peut pas se targuer d'avoir la compétence de réviser la constitution. Et cet accord est pour nous un pacte social entre Burundais qu'il ne faut pas changer sur l'initiative de tout venant. La deuxième raison, c'est que l'article 299 est clair. Aucune procédure de révision n'est envisageable quand elle peut porter atteinte à la cohésion nationale, au principe de la démocratie.
Président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, estime que le parti présidentiel CNDD-FDD veut enterrer une fois pour toutes tous les accords de paix et de réconciliation d'Arusha. Zénon Nichanenzi.
Le Parena n'a jamais contesté le principe même de la révision de la constitution. Seulement, comme il y a un dialogue à Arusha, il faut que cette constitution soit changée dans l'esprit et les conclusions des accords d'Arusha. Si on met une commission avant les conclusions d'Arusha, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Si cette commission technique arrive à révisiter certains articles de la constitution, ça sera après une deuxième tentative. En 2013, l'Assemblée nationale burundaise avait manqué d'une seule voix pour l'amendement de la constitution. La seule différence cette fois-ci serait que ce changement provient de la volonté du peuple qui l'a demandé à maintes reprises. Une affirmation aujourd'hui contestée par l'opposition intérieure et celle en exil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
La journée de l'Afrique est célébrée aujourd'hui pour marquer la naissance de l'Organisation de l'Union africaine le 25 mai 1963. Plusieurs activités sont organisées sur le continent pour marquer l'événement. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a dans son message rappelé la nécessité de lutter contre le chômage des jeunes. En effet, l'Afrique est le continent avec la population la plus jeune. Abdourahmane Dia a joint à Dakar le panafricaniste Guy Marius Sagna, coordonnateur de la coalition Non aux APE.
Jamais l'Afrique n'a été aussi loin des objectifs des pères fondateurs de l'OEA. En termes de pauvreté, en termes de désespoir de ses populations et particulièrement de sa jeunesse, en termes de perte de souveraineté économique notamment, en termes aussi de menaces auxquelles elle doit faire face.
On est donc loin de l'intégration politique, économique et même des peuples. Quel message lancez-vous aux dirigeants africains actuels?
Je fais partie de celles et ceux en Afrique qui estiment que ces dirigeants ont fait une option très claire. L'option de maintenir l'Afrique dans les liens de la dépendance, de la domination. Je pense que s'il y a un appel à lancer, c'est à l'endroit des forces vives africaines, des peuples africains, car c'est eux qui font l'histoire et c'est à eux de changer la donne en édifiant un rapport de force qui puisse justement imposer aux dirigeants africains de changer d'option.
L'Afrique est un continent jeune et beaucoup parmi ces jeunes prennent des risques en traversant la Méditerranée pour espérer avoir une vie meilleure. Quelle est la solution justement face à ce problème de l'immigration clandestine?
Ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas suffisamment scolarisés. Ils s'en vont parce que ce sont des filles et fils de paysans qui vivent les périodes de soudure. C'est l'État du Sénégal lui-même qui dit par exemple qu'il y a près de 900 000 Sénégalais cette année qui vivent une situation d'insécurité alimentaire. L'an passé, 500 000 Sénégalais. Il y a deux ans, 1 500 000 de Sénégalais. Comment veut-on que les filles et fils des paysans qui vivent cette situation-là restent dans leur pays? C'est ça la situation. C'est les conséquences des plans d'ajustement structurel. C'est les conséquences des politiques libérales imposées par les FMI et la Banque mondiale. Situation qui va empirer avec les accords de partenariat économique.
Si je vous comprends bien, il faut que l'Afrique développe des programmes qui ne sont pas forcément imposés par les institutions financières internationales.
La Chine. D'accord, qui est le dernier modèle de pays dit émergent, s'est protégée pendant un demi-siècle. Et quand elle s'est sentie suffisamment forte à affronter les multinationales et autres, elle s'est ouverte au monde. Pourquoi l'Afrique va-t-elle être la seule exception dans l'histoire de l'économie à se développer en ouvrant son marché, en ne protégeant pas son agriculture, en livrant ses paysans aux multinationales américaines et de l'Union européenne?
C'était Guy Marius Sagna, coordonnateur de la coalition Non aux APE à Dakar. Parlons à présent d'un sujet qui préoccupe les habitants de la capitale camerounaise ces derniers temps, celui relatif à la collecte des ordures ménagères. Plusieurs quartiers en sont privés et selon notre correspondant, Yaoundé présente par endroits des allures de ville poubelle. De son côté, la société en charge de l'hygiène et de la salubrité accuse notamment l'incivisme des populations. Un reportage d'Emmanuel Jumtap à Yaoundé.
À Yaoundé, les ordures ménagères côtoient déjà un peu trop les habitants de la capitale politique du Cameroun. Même les quartiers dits résidentiels n'échappent pas au décor des rues jonchées d'ordures ménagères des jours durant. Comme au lieu dit Tropicana, nous avons surpris le jeune Roger en train de déverser les ordures à même le sol, faute de bac à ordures.
Quitter chaque jour à la maison, peut-être venir à une décharge comme ça, et ça accumule encore plus. Nous ne sommes pas censés faire ça, parce que comme on voit dans les pays extérieurs, par exemple en Europe, les services d'hygiène là-bas, c'est chaque matin, très tôt et très tard dans la nuit. On n'a pas à se déplacer pour toujours les vider.
Et comme le Cameroun n'est pas l'Europe, c'est parfois une initiative personnelle de ramassage des ordures qui vient suppléer la société en charge de l'hygiène et de salubrité à Yaoundé. Stéphane essaye tant bien que mal de le faire dans son quartier depuis le mois de février.
Et chaque fois, on a appelé le chef de bloc de Isaacam, me jongle. Et si je n'enlève pas comme vous me voyez avec la peine là, c'est qu'il n'y a même pas le passage ici.
Au marché central de Yaoundé, où nous rencontrons un commerçant, l'évocation du ramassage des ordures ménagères le fait sortir de ses gonds.
Je suis un habitant de Mimoumandon, Moscou. Mais dans mon quartier, c'est grave. Les ordures ont traîné presque 3 semaines. On n'arrivait même plus à marcher. C'était tellement grave. Il faut que vraiment le gouvernement nous aide avec Isaac, sinon les gens vont beaucoup tomber malades au quartier.
Accusé, la société Isaacam se défend. 3 raisons sont évoquées pour expliquer l'image d'une capitale poubelle depuis quelque temps. Pascal Nga, de la cellule de communication.
S'il y a l'incivisme des populations, on met les bacs, les gens volent les coffres verts en plastique, ceux qui sont métalliques, on les vandalise, les gens font de la ferraille avec. Il y a les embouteillages et jusqu'à présent, on n'avait pas de centre de transfert. Seulement, le délégué du gouvernement nous a donné un centre de transfert au niveau du marché Mokolo et au niveau du stade Mendon. Et c'est ça qui nous permet de décanter un peu la situation en ce moment.
En coulisses, le renouvellement du contrat de la société Isaacam se discute. D'ici fin juin, le gouvernement va se prononcer si oui ou non, cette société restera partenaire de l'État en matière d'hygiène et de salubrité au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 25 mai 2017, on s'intéresse au bassin du lac Tchad. En 2016, près de 8 millions de personnes y étaient au bord de la famine. En cause, la conjonction d'un conflit armé et d'une crise écologique. Nous nous pencherons aussi sur la situation sécuritaire et sur les efforts fournis par les pays de la région pour limiter les séquelles de la guerre contre Boko Haram. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Environ 23 millions d'Américains perdront leur couverture médicale sur 10 ans sous le projet de réforme de l'assurance maladie approuvé le 4 mai par la majorité républicaine de la Chambre des représentants. C'est ce qui ressort des estimations du Bureau du budget du Congrès. Selon la même source, cette mesure qui remplacera l'assurance maladie de Barack Obama permettra de réduire les impôts d'environ 1 milliards sur 10 ans, essentiellement en faveur des ménages revenus élevés. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton dans le New Jersey.
Les républicains sont très remontés, ont été toujours très remontés contre le Obamacare et puis ils veulent le remplacer par tous les moyens. Malgré l'opposition de la base, vous vous rappelez, après les élections, certains des congressmen ont fait des meetings, puis les gens se sont opposés, les gens se sont manifestés, et puis malgré ça, ils ont continué, et puis voilà, c'est la situation où nous sommes actuellement.
Les républicains assurent que leur réforme va ralentir l'augmentation des coûts de l'assurance maladie qu'on observe actuellement sous la réforme du président Obama.
Le prix diminue, mais le nombre de personnes sans assurance augmente de 23 millions. Je pense quand même qu'il y a quelque chose à gagner, quelque chose à perdre. En dehors de ça, il parle également du fait que le nouveau plan réduit le déficit. Mais en mettant ensemble la réduction du déficit et le fait que le coût est légèrement plus bas par rapport au nombre de personnes qui risquent leur vie à cause de cela, je pense que le choix devrait s'imposer, quoi.
Il est également question d'une réduction de 1 milliards de dollars d'impôts pour les ménages à haut revenu.
C'est ça. Et ce qui fait que, en fait, ceux qui ont voté pour Trump, c'est ceux qui vont perdre le plus. Et comment est-ce qu'on peut réduire le déficit budgétaire en coupant les taxes aux plus riches, qui n'en ont même pas besoin. C'est là aussi l'entêtement idéologique. Il y a un groupe de gens qui restent derrière Trump. Ils se sont présentés au début comme des populistes, comme des gens qui ont à cœur les intérêts des classes moyennes, des classes, basses. Je suis persuadé que, disons, cette diminution d'impôts, ce n'est pas quelque chose qui pourra lui permettre de gagner en popularité, quoi. Donc parmi ces gens-là.
Et pourtant, les partisans de Donald Trump, y compris les plus pauvres, continuent de le soutenir savamment.
C'est quand même très tôt pour ces gens-là de changer d'avis. Et puis, ils ont été mis dans un état d'esprit de ne pas croire ce que les médias, ce que l'opposition en train de dire sur Trump. Il est aussi important de souligner qu'il y a un côté de l'électorat aux États-Unis qui est dans un certain sens ethnique, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont tellement bornés par rapport à leur soutien à Trump et leur soutien au Parti républicain, qui ne veulent rien écouter, même si cela va contre leurs intérêts. Et lorsqu'ils veulent changer de position, on leur lance des choses comme le mariage gay ou des choses tout à fait religieuses ou idéologiques, quoi. Donc, pour pouvoir les maintenir, en fait, dans le camp républicain et le camp de Trump.
C'était Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton dans le New Jersey. Voilà, c'est la fin de cette émission. La mise en onde, c'était Sims. La console, c'était Nachwan Kale. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.